intérieur. En soi et chez soi. Une émission de Daniel Fazan.
Bonsoir et bienvenue, bienvenue à Lausanne, dans un endroit mystérieux, juste derrière l'église Saint-François, au passage Saint-François. Alors, j'ai longtemps cherché ce lieu. En réalité, je l'ai trouvé il y a quelques années. C'était il y a près de 3 ans pour rencontrer Fateh Emam, qui est un écrivain d'origine afghane, qui avait écrit un livre à l'époque et un deuxième est sorti. C'était « Au-delà des mers salées ». Eh bien, Fateh Emam a une épouse. Elle est allemande d'origine et c'est dans cette maison, cet appartement à nouveau, que je la rencontre parce qu'elle est l'initiatrice et c'est une créatrice quelque part. À partir de la retraite, Hildegarde Medina Emam a conçu et même fabriqué et même voulu une association qui est extraordinaire. Elle règle en Afghanistan un problème local, certes, mais avec une petite association. Et à partir de 65 ans, à partir de l'âge de la retraite, on peut faire des choses et des choses utiles dans le monde. Je rentre dans cette maison, dans cet appartement. Il y a un escalier en colimaçon. L'appartement est tout étroit, formidable. Je le connais, je m'en souviens. Il est vraiment sympa. Et nous allons rencontrer Hildegarde Medina Emam. Je vais sonner à la porte. Tiens, là sur la droite, il y a une autre pièce. Je n'avais pas remarqué, la porte est ouverte. Et il y a de l'éclairage. Bah, c'est un autre lieu de cette maison, tout étroite, un petit peu comme les maisons hollandaises d'Amsterdam. Genre 4 mètres de large, mais sur 3 ou 4 étages, avec une mezzanine au-dessus. Mais là, je suis déjà au deuxième étage. Hildegarde, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes trop chou. Vous êtes habillée en afghane ce soir.
Oui, parce que je veux parler de l'Afghanistan, donc je me suis dit un petit peu d'habit afghan, ça fait du bien.
Ah oui, ça fait du bien. Il y a des miroirs, des broderies sur votre tunique. Vous l'avez acheté là-bas. Êtes-vous allée en Afghanistan, Hildegarde?
Je ne suis jamais allée en Afghanistan, malheureusement, mais j'en rêve.
C'est étonnant, vous épousez un afghan, vous ne parlez pas sa langue, je crois.
Non, pas du tout.
Quelle est la langue de l'Afghanistan?
C'est le Dari.
Ah oui, ça j'ignorais. J'imaginais qu'on appelait ça l'Afghani ou je sais pas. C'est le Farsi en réalité.
Farsi, oui. C'est comme le persan en fait.
Et aujourd'hui, l'Afghanistan insiste sur le fait d'appeler cette langue le Dari.
Oui, pour se différencier de l'Iran.
D'accord. Alors vous avez épousé à la fois un afghan, il y a quand même pas mal d'années, combien ?
Mariée, ça fait 20...
20 et quelques années, oui, mais bien davantage.
Mais je le connais depuis 40 ans, presque. Presque 40 ans.
C'est un bel homme, je l'ai interviewé. C'est un homme qui longtemps s'est promené dans Lausanne. Tout le monde l'appelait l'Indien.
Il a l'air un peu indien, mais c'est un bel afghan.
Suisse en plus, évidemment. Et puis, il a traîné ses frusques dans les pays du monde, notamment à New York. Il a quitté l'Afghanistan il y a très longtemps, très jeune. Pour quelle raison l'a-t-il quitté ce pays?
Il cherchait la liberté, comme il le dit dans son livre « Au-delà des mers salées, un désir de liberté ». Il a toujours cherché la liberté et il aime l'Occident.
Et là, aujourd'hui, à 80 ans, il a trouvé la liberté.
Oui, il a la liberté. Il est libre d'écrire. Et c'est ce qu'il fait.
C'est ce qu'il fait. D'ailleurs, un tome est à paraître bientôt. Il faut qu'il travaille et il faut qu'il travaille tous les jours à cet exercice d'écriture. Vous n'écrivez pas, Hildegarde Medina Emam, vous n'écrivez pas, mais j'ai raconté aux auditeurs ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. À partir d'un certain âge, on va dire l'âge approximatif de la retraite, vous avez fait une création. Vous avez eu envie de vous investir dans un projet parce que la vie s'arrête, la vie active. Vous étiez autrefois?
J'étais autrefois dans le marketing et la vente dans le domaine de la publicité internationale, donc un domaine très commercial. J'ai fait carrière et à la retraite, j'avais envie de faire autre chose, de faire dans le social et notamment pour les enfants et les mamans, pour aider les enfants et les mamans en difficulté.
Et comme vous avez épousé un Afghan, vous avez épousé aussi la cause de l'Afghanistan, mais des gens libres de là-bas.
Voilà, j'ai voulu aider en Afghanistan et c'est ce que nous venons de réussir.
Alors ici, il y a une clochette. C'est quoi, un grelot? Ah ouais, c'est pour monter à l'étage.
Pour l'étage. Pour
alors, la... vous me conduisez à l'étage ?
Oui, je vous mène.
D'accord. Alors, on monte cet escalier blanc, il y a des bougies allumées. C'est un appartement, je le comparais parce que j'ai des souvenirs, Hildegarde, j'ai des souvenirs des appartements très étroits, ces maisons de plusieurs étages à Amsterdam. Vous avez connu ces maisons-là ?
Oui, j'ai aussi été à Amsterdam et c'est vrai que c'est aussi des maisons étroites. Celle-ci où nous habitons, elle date de 1600 et quelques. C'est une des plus vieilles de Lausanne.
Alors justement, elle est cachée derrière Saint-François dans un endroit absolument impossible, parce que si on veut parquer une voiture, il ne faut pas rêver, il faut aller parquer à 12 plombes à 2 marches dans la région. C'est un appartement que vous viviez depuis longtemps. C'est étonnant parce qu'il y a, je ne me souvenais plus, il y a des colombages.
Ah oui, il y a beaucoup de colombages et ça fait 25 ans que nous habitons là et nous l'adorons cet appartement. D'être en pleine ville et avec ce cadre très vieux, ancien, en bois, pas des murs droits, tout est
rustique et à l'ancienne.
Oui, à l'ancienne, oui.
Là, il y a un tissu, j'aimerais bien que vous me le décriviez. Venez, Hildegarde Medina, il y a un tissu antique devant nous qui ressemble à la fois à la tunique que vous portez, mais en même temps qui doit avoir 200 ans de plus, quelque chose comme ça, avec des micas, c'est-à-dire ces petits miroirs rebrodés et des broderies au-dessus. Et le tissu est complètement passé.
Oui, c'est un petit tapis ou tapis de mur qu'on a trouvé en Inde, Fatih et moi, quand on a été en Inde dans les années 80. Et voilà, je trouve que ça fait l'Orient, c'est bien, j'aime.
Alors ce qui est étonnant, c'est que Fatih Emam, l'écrivain, n'est pas retourné dans l'Afghanistan qu'il a connu depuis beaucoup d'années. Je lui ai parlé l'autre jour au téléphone et j'étais très étonné de me dire qu'il n'avait pas la nostalgie de son pays. Pourquoi n'est-il pas retourné et depuis combien d'années ?
Alors, ça fait 50 ans qu'il n'est pas retourné en Afghanistan et il ne veut pas y retourner parce qu'il serait quand même déçu maintenant que ce pays est tellement détruit et il est aussi trop âgé. Et il serait surtout déçu de retourner dans son pays d'origine. Mais il m'en parle beaucoup quand même.
Oui, bien sûr, mais il y a une part de nostalgie. On va s'asseoir dans le canapé ici. Alors ce sont en quelque sorte les combles. Alors là, il faut que je me baisse un tout petit peu dans un beau canapé qui fait d'ailleurs très oriental. Asseyez-vous, Hildegarde Medina. Alors si je dis Hildegarde Medina et Mam, j'ai l'impression de lier au moins 3 civilisations. Vous m'expliquez Hildegarde, vous m'expliquez Medina, puis vous m'expliquez relativement peu et Mam, puisque maintenant on sait.
D'accord. Alors, Hildegarde, ça dénote bien que je suis allemande. Je suis allemande d'origine et voilà, j'ai ce nom très allemand, Hildegarde, comme prénom. Medina, c'est le nom de famille de mon premier mari qui venait de Salvador et dont j'ai 2 enfants, donc Medina. Et dans ma profession, je m'appelais toujours Hildegarde de Medina. Et puis Emam, c'est le nom de mon deuxième mari, donc de Fatih Emam. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que je suis devenue suisse. Avant, j'étais allemande seulement. Maintenant, je suis allemande et suisse. Et maintenant que je suis à la retraite, j'utilise le nom de famille Medina Emam, les deux.
Alors, Hildegarde, j'imagine, puisque vous avez dépassé l'âge de la retraite, vous êtes entre 65 et 70 ans, que vous avez vécu une fin de guerre. Vous étiez une enfant à Brême, je crois que c'est le lieu de votre naissance. Qu'avez-vous comme souvenir de votre enfance ? Des souvenirs, puisque vous avez créé un orphelinat, une association qui crée un orphelinat dans le nord de l'Afghanistan à Kunduz, on peut imaginer que vous étiez frustré de parents et que des orphelins ont dû graviter autour de vous et en même temps que vous avez été peut-être orpheline.
Alors non, j'étais pas du tout orpheline, j'avais une très belle enfance en fait à Brême, mais après la guerre, bien sûr, la vie était assez difficile pour tous les Allemands. Et je me rappelle que nous avons dû quitter notre maison après la guerre parce que les Américains occupaient les belles villas et on nous a logés dans toutes sortes de logements, partagés avec des familles, il n'y avait pas beaucoup à manger.
Mais votre famille était une famille à l'aise ?
Alors ma famille était une famille à l'aise et après la guerre, peu à peu, comme toute l'Allemagne, ça s'est remonté et mon père gagnait bien de l'argent et nous étions une famille aisée. Mais j'avais une famille un petit peu froide et je me rappelle que Dans mon enfance, je rêvais qu'on m'envoie une fois dans un home d'enfants en vacances, en me disant que là-bas, on va s'occuper davantage de moi qu'à la maison. Donc j'avais déjà ce désir de, où j'avais déjà l'illusion, où j'avais déjà l'impression qu'un home d'enfants, c'est quelque chose de merveilleux, où on s'occupe avec beaucoup d'amour d'enfants.
Mais c'est incroyable, vous créez un orphelinat alors que vous avez des parents et vous n'êtes pas sorti de l'enfance avec le sentiment d'avoir été aimé de vos parents ou en tout cas touché, cajolé.
Voilà, surtout pas tellement d'affection, plutôt un peu froid comme famille. Mais autrement, oui, une enfance heureuse quand même.
Alors, Hildegarde, vous débarquez, je ne sais pas, en Suisse, vous apprenez le français, vous apprenez plusieurs langues et vous avez une carrière. Pour quelles raisons débarquez-vous en Suisse?
Ah, j'ai été envoyée en Suisse pour apprendre le français, comme beaucoup de jeunes filles allemandes, avec ma grande sœur d'ailleurs, parce que je n'avais que 17 ans. Et j'ai appris le français et j'ai rencontré en fait tout de suite mon premier mari, qui était du Salvador. Mais j'ai dû retourner en Allemagne pour finir ma formation. Et après, j'ai forcé mes parents à accepter que je me marie avec ce Salvadorien que j'aimais beaucoup.
Ça a marché tout de suite parce que là, il y a un choc culturel quand même. Ça se passe, je peux imaginer, dans les années 50-60.
Voilà, c'était 59. Et puis en 61, j'ai pu revenir à Lausanne et finalement, je suis presque restée toujours à Lausanne, sauf que avec mon premier mari, nous sommes partis au Canada pour les études de mon mari et ensuite on a vécu au Salvador où j'ai travaillé aussi. Et puis après, c'est mon mari qui voulait absolument revenir à Lausanne pour continuer les études et nous sommes revenus à Lausanne et depuis là, j'ai vécu toujours à Lausanne.
Alors curieusement, pas curieusement, c'est-à-dire que vous divorcez parce que ça c'est relativement courant, mais votre mari disparaît.
Oui, alors mon premier mari, quand il est rentré au Salvador, il s'est remarié, il avait juste un petit bébé, et à 35 ans, quelque chose comme ça, malheureusement, il a eu un accident de voiture et il est mort dans cet accident de voiture.
Donc finalement, une sorte de chose vous arrive, c'est que vos enfants de ce mari-là, qui s'appelle Médina, sont des orphelins de père. Est-ce par hasard que vous vous occupiez aujourd'hui et que vous créiez une fondation pour un orphelinat d'Afghanistan, dans la ligne de la pensée de cette situation peut-être, vous êtes projeté dans la vie de vos enfants?
Oui, ça peut aussi être une des raisons, mais c'est surtout, je pense, les enfants en difficulté, les enfants, les vrais orphelins dans des pays pauvres en plus où il n'y a pas de structure. Ici en Suisse, ça va encore, un orphelin, il est pris en charge et puis tout est bien soigné. Mais dans les pays plus pauvres, si on peut aider les enfants comme ça en difficulté, je me dis ça apporte quelque chose pour faire des adultes plus heureux.
Mais c'est étonnant de le faire à distance, dans un pays dans lequel on ne va jamais. Alors il vous faut forcément des relais, des témoins, des personnes dignes de confiance pour qu'ils soient les bras de votre esprit et en même temps des esprits sur place pour convaincre.
Oui, j'ai toujours trouvé, enfin justement notre association, celle que j'ai fondée, donc cette Vox Infantis, en fait, je l'ai fondée en me disant, je veux aider les enfants et les mamans, mais moi, ce que je sais faire le mieux, et étant mariée aussi, avec un mari un petit peu malade, je dois rester ici, à la maison, ou enfin ici. Et ce que je sais bien faire, c'est le marketing, c'est l'organiser. Et donc, nous collectons ici l'argent. Et je dois trouver les personnes de confiance à qui nous donnons l'argent, que nous aidons. Et j'ai commencé par la Tunisie parce que là, j'ai une belle-sœur, la sœur de mon premier mari, qui avait fondé une crèche pour bébés abandonnés. Et je me suis dit, on va aider cette crèche-là, ces bébés abandonnés et ces mamans célibataires. Parce que j'ai confiance en ma belle-sœur, elle est une nonne formidable. Je l'ai toujours admirée, j'ai toujours vu.
Alors, justement, vous dites une chose étonnante, votre belle-sœur est une nonne.
Oui, ma belle-sœur est une nonne et elle vit en Tunisie, ce qui est aussi assez étonnant de nos jours, mais elle s'est intégrée en Tunisie et elle a travaillé comme sage-femme là-bas. Il y a quelques nonnes encore qui restent en Tunisie. Et c'est une femme de cœur aussi, très engagée pour les enfants et les mères seules.
Alors à partir de là, naît Vox Infantis, mais on y reviendra tout à l'heure. On écoute Catherine Major, si vous êtes d'accord, Hildegarde, Medina Emam, c'est toute une vie.
Intérieur, dis-moi ton antre, je te dirai qui tu es.
On fait de quoi, dites-moi, on est comme ça un beau jour, et puis on entend dire bonjour. Il y a le sang, la chair et le bois, qu'on touche, on espère, c'est comme ça. Il y a le vent, la terre et les lois, qu'on laisse au vestiaire quelquefois. On est fait de quoi, dites-moi, quel effet on fait, à qui et pourquoi, et qu'est-ce que ça fait de savoir tout ça. Il y a la sueur, les rêves et la foi, parfois on en crève, dans les trois. Il y a la peur, la sève et le moi, de rien qui s'achève au détroit. Toute une vie comme ça, sauter des clôtures, tourner le sablier, porter son armure, jouer au chevalier. Toute une vie comme ça, soigner ses blessures, tourner le sablier, repartir d'azur et cache d'escalier. Dites-moi, il y a l'amour là-bas, on est tous autour, on espère tout bas, avoir notre tour. Il y a le cœur, la tête et le corps, qui se font tempête ou s'ignorent. Il y a les fleurs, les bêtes et l'aurore, derrière les fenêtres où l'on dort. On ne fait de quoi, dites-moi, on part comme ça, bonjour. Et puis on se dit, c'est trop court. Autant de mystères que de vie. Il y a le printemps, l'hiver et l'envie d'avoir l'univers comme vie. Toute une vie comme ça, sauter des clôtures, tourner le sablier, porter son armure, jouer au chevalier. Toute une vie comme ça, soigner ses blessures, tourner le sablier, repeindre d'azur les cages d'escalier.
Toute une vie, c'est Catherine Major. Il est chouette ce titre, il est pétulant, il est beau. Et en même temps, votre vie, Hildegarde, Medina Emam, votre vie est pétulante parce que sur, je sais pas comment dire, l'inspiration de votre première belle-sœur qui vit en Tunisie, vous créez Vox Infantis. Est-ce qu'il y a des tenants dans ce mot infantis? C'est que le mot enfant en français vient du latin, de cette idée que les enfants in, c'est-à-dire le côté privatif, fantis, c'est-à-dire la voix, sans voix. Les enfants, on les appelait les sans voix. Et vous donnez la voix aux enfants. Vox infantis. Connaissiez-vous l'origine du mot enfant en français venu du latin?
Oui, je le connaissais parce que j'avais cherché sur Internet, quand j'ai cherché un nom pour mon association. Je ne voulais pas l'appeler la voix de l'enfant parce qu'elle existe en Tunisie, justement, celle que nous aidons, et elle existe aussi à Paris sur un plan international. Donc je ne voulais pas prendre le même nom, mais je trouvais beau le nom, la voix de l'enfant. Alors en latin, j'ai trouvé Vox Infantis et j'avais vu que Infantis, ça veut dire sans voix. Que les enfants, effectivement, n'ont pas la voix ou la voix au chapitre et nous prenons la voix pour eux.
Alors là, à partir de la Tunisie, vous cherchez une idée de quoi mettre en application un idéal. Mais d'où naît profondément en vous, Hildegarde Medina, cet idéal? Parce que vous n'êtes frustré de rien dans l'existence. Vous avez une vie que je dirais bourgeoise quand on voit cet appartement où vous vivez au cœur de Lausanne et puis vous avez des envies, bien sûr. Mais on a envie de savoir aussi pourquoi vous avez envie.
J'ai envie parce que j'ai dû travailler, j'ai fait une belle carrière dans le domaine marketing et comme marketing, mais ce n'est quand même pas satisfaisant. Donc je voulais faire quelque chose pour les autres et la retraite m'a donné cette occasion.
Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que vous avez élevé deux enfants, les vôtres, et puis les enfants de Fateh Emam, l'écrivain afghan. C'est-à-dire que vous n'étiez privé de rien, arrivé à 60 années, j'ai envie de dire balai ou berge. Et que je trouve très joli, 60 berges. J'adore parce qu'on n'est pas sur la berge. C'est à ce moment-là que vous vous dites qu'il faut faire quelque chose. Mais pourquoi faire quelque chose?
Ah, parce que je ne peux pas m'imaginer une vie sans ne rien faire, sans faire seulement le ménage ou des choses comme ça. Ou d'aller seulement dans les boutiques ou d'aller boire seulement des cafés. Non, je veux faire quelque chose d'utile et qui aide les enfants et les mamans.
Donc, créer un orphelinat dans le pays de votre second mari, c'est l'Afghanistan. Comment se noue cette histoire qui est relativement étrange, puisque vous n'y mettez pas les pieds, mais que vous travaillez ici à combien de pourcents par jour?
Oh, 50 à 60% par jour. Je suis sans arrêt sur l'ordinateur.
Alors, pourquoi ce pays et comment le faites-vous et avec quelle aide?
Ah oui, alors ça, c'est très joli, je trouve, parce que j'étais en vacances avec mon mari à Brême. Et au marché de Brême, je vois un groupe de femmes qui collectent de l'argent et nous donnons un peu d'argent et nous parlons pour qui vous collectez. Et c'était pour l'Afghanistan et c'était une femme afghane. Et nous avons parlé plus longtemps avec elle, nous l'avons revue le lendemain et elle nous a parlé de l'orphelinat à Kunduz qu'elle a visité parce qu'elle était en mission avec l'armée allemande, l'ISAF, à Kunduz, avec sa meilleure amie d'enfance, qui est une autre afghane en Allemagne. Et ces deux amies, elles vont en mission tout le temps en Afghanistan avec l'ISAF, si possible à Kunduz, sinon au nord, à Mazar-e-Sharif. Et elle m'a paru très, très engagée, aussi très forte pour aider ces enfants qui vivaient vraiment dans des conditions très, très mauvaises. Et je me suis dit, voilà un projet que nous allons soutenir. Et avec ces deux femmes, c'est elles les deux qui vont là-bas en Afghanistan, qui ont les liens, qui ont les connaissances, qui parlent la langue, qui savent se débrouiller pour trouver d'autres donateurs sur place, qui réalisent les choses. Elles créent d'ailleurs en ce moment une association en Allemagne aussi pour chercher aussi des fonds en Allemagne. Mais ce sont ces deux femmes qui sont mes partenaires pour réaliser la chose.
Alors, il dégarde Medina Emam. Ce qui se passe, c'est que l'orphelinat existe à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan, pas très très loin de Kaboul, mais un petit peu plus au nord. Cet orphelinat existe. Qu'y avait-il à faire de supplémentaire pour qu'il perdure, ou en tout cas qu'il se développe, et pour quelles raisons? Parce qu'on peut se poser plein de questions, et je vous les poserai tout à l'heure. Pour quelles raisons faire davantage encore?
Ah oui, alors ces femmes afghanes, Shaista Ali Khan et Soraya Alekozai, elles m'ont appris que cet orphelinat, il était à ce moment-là, donc c'était en 2006 quand je les ai connues, et elles y étaient en 2005. Ils étaient logés dans une maison comme pour un gardien, pour une famille de gardiens, pour une dizaine de personnes. Et ils étaient dans les 60 enfants qui dorment et 60 autres enfants qui viennent la journée. Ou parfois, il y avait même 150 enfants. Et dans tout ce petit espace très abîmé, et en plus, c'était des locaux loués à une entreprise qui avait arrêté son activité à cause des difficultés en Afghanistan et qui voulait peu à peu récupérer son terrain et cette maison. Et ces orphelins devaient de toute façon déménager. Alors nous avons eu le projet de construire un nouvel orphelinat pour ces enfants. Et ma partenaire Soraya, lors d'une de ses missions, elle a réussi, dans un tout petit moment qu'elle a rencontré le gouverneur, parce qu'elle était interprète pour le monsieur de l'armée allemande, elle a rencontré le gouverneur, elle a pu lui parler du projet que nous voulons faire en orphelinat, elle a obtenu déjà un terrain de 5000 m². Et ensuite, Shaista, l'autre partenaire afghane, elle est architecte, elle nous a fait un projet pour mettre un orphelinat sur ce terrain de 5000 m². Mais en premier, il fallait construire un mur autour du terrain. Parce qu'en Afghanistan, il faut d'abord faire un mur. Et ce mur, il coûtait déjà 16 500 francs que nous avons payé en premier. Et qu'on a construit tout de suite parce que sinon, le terrain est pris par d'autres gens et tout ça. Et en fait, en mars l'année passée, nous avons vu l'avant-projet pour cet orphelinat fait par Shaista, qui est venue à Lausanne, à l'Assemblée Générale de notre association. Et cette année en mars, l'orphelinat existe. Le 27 mars, il a été inauguré. Et ça...
Alors c'est génial, Hildegarde, parce que vous m'avez envoyé, on se connaît un tout petit peu, mais vous m'avez envoyé la photo de l'inauguration et cette photo se trouvera sur notre site. Il y a un moment extraordinaire et jubilatoire, j'imagine, pour quelqu'un qui travaille à distance, de voir des images avec des panneaux, des enfants qui brandissent des textes en farsi que vous ne pouvez pas lire, mais quand même avec Vox Infantis dans nos lettres latines, et qui disent la victoire, la première victoire, parce que c'est la moitié du projet.
Oui, c'est la moitié du projet parce que le terrain est très grand et au départ, nous avions un projet de faire deux maisons sur ce grand terrain. Et quand mon ami architecte Chaïsta est allé l'année passée, au mois de mai, elle a vu les prix de la construction, c'était quand même cher. Donc une maison coûtait déjà 120 000 dollars. Et comme nous, on n'avait quand même pas beaucoup d'argent en réserve, on avait thésaurisé un petit peu pendant les dernières années. Mais on n'avait jamais 280 ou 300 000 francs et on n'arrive pas à les trouver si vite non plus. Donc on a dit on va construire déjà une maison et puis le reste on verra plus tard. Et cette nouvelle maison, elle s'est faite si vite, je dirais, parce qu'il y a eu un incendie dans l'ancienne orphelinat, une nuit en hiver, en février, là, cette année, où même deux enfants sont morts, ce qui est terrible. Et ça, ça nous a précipité les choses. Alors Soraya, elle est allée tout de suite, elle a pris congé parce qu'elle travaille à la poste en Allemagne. Elle est une femme courageuse et fantastique. Elle a tout de suite pris des vacances, elle est partie en Afghanistan, elle a tout organisé. Le monsieur qui construisait la maison, même que nous n'avons pas du tout tout payé, nous devons encore beaucoup d'argent. Mais et il n'avait pas vraiment fini la maison. Elle a poussé, il a engagé 50 personnes, ils ont construit comme des fous, ils ont tout fini. Elle a organisé que les enfants soient lavés dans le hammam. Elle a organisé que d'autres organismes qui sont là-bas sur place, allemands et aussi américains, nous aident à financer l'équipement, donc acheter les lits, acheter des habits pour les enfants, acheter la cuisine, parce que la cuisine n'était pas finie non plus. Et même, je crois, les Américains vont aménager le terrain dans le grand terrain, le jardin ou les rues qui sont dans l'orphelinat. Et le 27 mars, elle a réussi à organiser cette fête d'inauguration avec toutes les autorités, les médias locaux, avec ce panneau qui dit Vox Infantis quand même pour que je puisse montrer à mes membres, c'est quand même important. Et c'est vrai que c'est merveilleux de voir qu'en une année, la chose qu'on a vue en projet est déjà réalisé et que les enfants sont là dans leur belle maison et qu'ils sont mieux.
Et comment qu'ils sont mieux? On écoute un extrait de la bande originale du film documentaire Afghan Star. C'est ce titre Zim 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 que nous a programmé José Moreno. C'est une chanteuse afghane qui le chante. C'est Setara Hussain Zada.
Une visite intérieure pour parler de soi.
کجکی کجکی آبروی نیشگاش دماد چه کنم افسوس مال مردم است کجکی آبروی نیشگاش دماد چه کنم افسوس مال مردم است
C'était Setara Hussain Zada, la bande originale du film de Afghan Star. Et nous parlons de l'Afghanistan avec Hildegarde Medina Emam, qui est l'épouse d'un Afghan et qui a créé Vox Infantis. On se demande, Hildegarde, si vous me permettez, si vous n'êtes pas en train de faire naître des orphelins, peut-être de la guerre, pour qu'ils deviennent plus tard, je ne sais pas, des éléments rebelles contre nos systèmes et des éléments dangereux, des enfants qui seront embrigadés dans une vie que nous n'aimerions pas voir pour eux. Faites-vous juste lorsque vous créez un orphelinat en Afghanistan ?
Alors, je pense que nous faisons juste parce que justement, que les enfants soient dans un orphelinat qui est géré par l'État, ça leur donne de l'éducation, ils sont suivis et nous avons le projet plus tard, quand on aura plus d'argent, de leur donner aussi un soutien psychologique et de leur apprendre des petits métiers pour que quand ils ont 18 ans, qu'ils doivent quitter l'orphelinat, ils deviennent des adultes responsables qui participent à la reconstruction de leur pays. Par exemple, on pourrait leur apprendre des petits métiers comme font d'ailleurs les femmes en Tunisie, là où nous aidons en Tunisie, même faire des confitures, faire des biscuits, c'est ce que nous faisons ici aussi, les vendre au marché ou des petits métiers artisanaux.
Et vous fabriquez des petits talibans ?
Alors, je ne pense pas que ce seront des talibans, parce que les talibans, souvent, ils recrutent les gens auprès des très pauvres. Ici, les enfants qui sont à l'orphelinat, leurs familles sont pauvres, mais eux, ils seront instruits, ils vont à l'école, on les envoie à l'école publique. Donc, ils seront instruits. On veut même leur faire des cours d'anglais et de computer, parce qu'il y a quand même des jeunes plus modernes et plus éduqués en Afghanistan. J'ai un jeune qui est étudiant à Jalalabad, il doit avoir 22 ans. Il est le vice-président de la société de construction, parce que même le monsieur de la société de construction, il a à peine 27 ans, il est tout jeune. Et c'est sa première construction qu'il a fait pour nous. Et le jeune de 22 ans qui est étudiant et qui est le vice-président, il sait l'anglais. Parce que sinon j'ai de la peine aussi à communiquer avec mes partenaires là-bas. S'il ne parle que le dari ou le farsi, je ne peux pas communiquer. Alors je dis toujours, il me faut un contact qui sait l'anglais et qui sait me faire un email. Ce que j'ai trouvé avec ce petit jeune de Nazir. Et les enfants à l'orphelinat, ils seront éduqués.
Mais l'État afghan, aujourd'hui, est-il à même d'éviter l'introduction ou en tout cas l'influence des talibans dans un lieu dont il est responsable ? Saurez-vous, vous, garantir que ces orphelins ne seront pas des gens qui seront pervertis par une idée qui sera contraire à la vôtre ? Pouvez-vous le garantir aujourd'hui ? Parce que vous avez des membres, des gens font partie de votre association, mais s'ils sont en train de couver le coucou ou s'ils sont en train de couver le dragon, ils n'en seront pas contents dans quelques années. Et c'est très important que cette idée perdure et que vous puissiez garantir au moins à vos donateurs une vraie pureté de votre idée jusqu'au bout.
Je suis sûre, parce que la jeunesse ou les Afghans en général, ils aspirent à l'éducation, ils aspirent à une vie normale, plus facile, et non pas avec des bombes et des violences. Et surtout, ils savent quand même, notamment les filles bien sûr, que les talibans, si les talibans devenaient de nouveau les dirigeants en Afghanistan, ça serait de nouveau la marche en arrière. Nous avons 14 filles quand même dans l'orphelinat, sur 46 garçons et 14 filles. Et là où les talibans règnent, c'est de nouveau fermeture des écoles pour les filles, les femmes ne peuvent plus sortir. Mais il y a quand même la majorité de la population, à mon avis, en Afghanistan, qui aspire à une vie normale, avec éducation, avec computer, avec un travail. Et j'espère que l'Afghanistan réussira. D'ailleurs, il est aidé par l'ISAF et les Américains. Et j'espère, moi je suis optimiste de nature, je pense quand même que ce pays va peu à peu retrouver son calme et que les gens puissent vivre mieux.
Mais ce qui est formidable dans votre œil vert, Hildegarde Medina Emam, c'est qu'il y a l'espoir et la volonté de faire les choses. Quand on n'est pas sur place et qu'on délègue les choses, est-ce qu'on n'est pas un peu bancal ? Est-ce qu'on n'est pas un peu une sorte d'infirme à distance qui aimerait communiquer, qui doit faire confiance et qui doute de temps en temps ? Vous doutez de temps en temps de vos projets Vox Infantis ?
Non, je ne doute pas du tout, parce que je ne choisis que des projets où je suis convaincue que mes partenaires sont des gens de cœur, des gens de volonté, des gens avec l'énergie nécessaire. et qui réalise les choses. Donc je suis, oui, je n'ai pas de doute, non.
Mais Hilde Garde, j'imagine que vous mettiez, non seulement que vous portiez cette belle tunique afghane que vous portez ici, qui est sortie de ce pays, mais que vous y entriez avec vos habits ou vos vêtements, tout simplement d'occidental, pour aller visiter à Kunduz, au nord de Kaboul, le lieu que vous avez créé, en quelque sorte, à la fois directement et à la fois indirectement. Pensez-vous que vous serez bien accueilli par tous ?
Oui, je crois que je serai bien accueillie. Oui, je pense que oui. Même, je me réjouis beaucoup d'ailleurs d'y aller et je n'irai pas en habits occidentaux. Je mettrai la burqa s'il le faut.
Ah non !
Si, je la mettrai. S'il le faut, je la mettrai.
C'est une insulte pour la femme ou non, à vos yeux, la burqa ?
Oui, c'est une insulte pour la femme, mais si ça peut protéger, si toutes les femmes le mettent par tradition, comme l'année passée, quand mes deux partenaires afghanes sont allées, elles ont mis la burqa de temps en temps. Là, sur l'inauguration, on voit que Soraya n'a pas mis, pas du tout mis une burqa, elle est habillée comme une afghane.
Et puis en plus, elle est derrière un mur.
En plus, elles sont derrière un mur. C'est vrai que ça, c'est habituel en Afghanistan. Il y a des grands murs autour de toutes les maisons, en fait. Donc, c'est vrai.
Vous êtes, je ne sais pas, vous êtes quand même irrité par le programme des talibans, par l'influence de ces intégristes qui sont quand même relativement dangereux pour votre projet, mais aussi pour la liberté de l'homme, avec H majuscule, c'est-à-dire Mensch en allemand, et vous connaissez bien le mot, et en même temps, pour la femme, forcément, c'est profondément irritant d'apporter une goutte dans l'eau, dans la mer salée, mais qui est une goutte d'eau douce, qui ne fera certainement pas forcément des petits. C'est peut-être un projet trop utopique.
Non, je ne crois pas que c'est utopique. Moi, je suis optimiste. Je pense quand même que ça va aller mieux. Ça va aller mieux en Afghanistan. Et de cet orphelinat-là, quand il roulera, enfin, quand on pourra soutenir, on trouvera toujours d'autres projets à soutenir.
Jamais vous n'avez des doutes, vous vous endormez en vous disant « il y a quelque chose qui ne marchera pas ».
Si, j'ai eu quand même des doutes. Mais à peine je parle avec Soraya et Shaista, mes doutes s'en vont. Parce qu'elles sont tellement convaincantes. Et elles font, puisque j'ai vu qu'elles font les choses. Donc après, mes doutes sont partis.
Hilde Garde, vous pensez qu'il y a une rue des Acacias à Kunduz ?
Non, je ne crois pas.
Mais il y en a une sans doute à Paris. C'est Marc Lavoine qui la chante.
Intérieur sur la première.
Elle n'était pas ma voisine, elle vivait dans les collines là, haut, rue des Aubépines. Je n'étais pas fier à bras, et chez nous il faisait froid, haut, bas, rue des Acacias. On se croisait de temps en temps, alors on marchait dans les champs, au milieu des fleurs du printemps. Chasse au loin tous les tourments. Je l'aimais tant, je l'aimais tant, je l'aimais tant. Elle rêvait d'Anna Karenine et de robes à crinoline là, haut, rue des Aubépines. Je n'étais pas sûr de moi, Dieu que j'étais maladroit. Oh. Doucement, on se regardait gentiment, mais la neige et le mauvais vent chassent au loin les rêves d'enfants. On s'aimait tant, on s'aimait tant, on s'aimait tant. Elle s'est couchée dans le spleen d'un marine là-haut, rue des Aubépines. Moi j'ai pleuré plus que moi, glacé de peine et de froid. En bas, rue des Acacias. Elle avait peut-être 20 ans, je m'en souviens de temps en temps, mais jamais ne revient le temps. Chasse au loin tout le temps, je l'aime.
Rue des Acacias, c'était Marc Lavoine, un extrait de son dernier album. Une belle chanson, une belle voix, Marc Lavoine. Il dégarde Medina et Mam, parce que j'aime bien dire Mam, parce que c'est votre origine afghane ajoutée, puisque c'est votre second mariage. Ce pays, l'Afghanistan, vous ne l'avez pas connu, vous ne l'avez pas foulé des pieds. Vous irez un jour mettre vos pieds là-bas, parce que vous aurez envie de voir la réalisation de votre demi-projet, si je puis dire.
Ah oui, bien sûr, je rêve. J'aurais même voulu déjà aller au mois de mars, maintenant, pour l'inauguration. Mais je dois patienter parce que mon mari dit non, c'est trop dangereux, tu ne peux pas aller, il faut attendre. Donc j'attends, mais j'attends et j'irai, c'est sûr que j'irai. Maintenant, l'autre femme afghane, Shaïsa, elle est en ce moment partie de nouveau en mission. Mais cette fois, malheureusement, elle a été nommée à Mazar-e-Sharif et non pas à Kunduz. Mais elle m'a déjà dit en septembre, octobre, moi je retourne voir les orphelins et si tu peux, tu viens avec moi. Alors nous verrons, peut-être en octobre je peux aller. J'espère.
J'espère aussi. Hildegarde, vous savez l'origine de la perte des parents, des enfants. Ce sont des enfants qui ont perdu leurs enfants dans les innombrables, terribles et sanglants attentats que l'on entend constamment à la radio. Ou est-ce pour d'autres raisons, tout simplement naturelles, que ces enfants sont devenus des orphelins ?
Alors c'est plutôt des orphelins de la guerre parce que avec les 30 ans de guerre que l'Afghanistan a eu, il y a à peu près, enfin à un moment donné, j'avais vu qu'il y a 700 000 veuves. Orphelins, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a beaucoup d'orphelins. Et la population, elle est toute déplacée. Les gens étaient réfugiés au Pakistan, en Iran, ils sont rentrés. Il y a partout un mélange de populations. Et les familles sont cassées, les veuves, parfois. Avec la coutume en Afghanistan, une veuve qui se remarie avec un autre mari, le nouveau mari, il ne veut pas l'enfant du premier mariage. Alors la femme, elle donne l'enfant à l'orphelinat pour pouvoir faire une nouvelle vie. Ou bien j'avais une fois, je trouvais très touchant, j'avais reçu un reçu par l'ancienne orphelinat d'une femme qui a payé, nous avons payé pour elle, donc notre partenaire là-bas, 200 afghanis, ce qui fait à peu près 2 francs, rien, 1 franc 50, pour faire une photo de passeport pour son enfant, parce qu'elle voulait que l'orphelinat accueille son enfant de jour. Parce que l'enfant est mieux à l'orphelinat, parce qu'il reçoit au moins un repas, alors que la famille, la maman, ne peut pas lui offrir un repas. Donc l'orphelinat accueille aussi, mais toujours dans les formes, avec les papiers, donc il fallait un papier que cette femme donne l'enfant seulement pour la journée. Donc il y a à peu près 60 enfants qui vont la journée parce que les parents préfèrent presque qu'ils soient là que dans la misère où ils vivent eux.
Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, Hildegarde, c'est que vous créez quelque chose de simple, d'artisanal, une ONG qui porte ses fruits. Faut-il des milliards de gouttes de cette nature et de décisions et d'investissements personnels pour que le monde aille mieux? Parce que ONG veut dire organisation non gouvernementale, mais les organisations gouvernementales, elles font évidemment quelque chose. Mais il faut ces milliards de décisions privées pour embellir le monde ou espérer un monde meilleur?
Je crois que oui, parce que je crois que c'est les petites initiatives comme la nôtre qui, me semble-t-il, donnent parfois plus de résultats que ce que les grandes organisations font. L'UNICEF est là-bas, Terre des Hommes sont là-bas, la Croix-Rouge est là-bas. Et pourtant, on voit que les gens, beaucoup de choses n'avancent pas vraiment. Et en tout cas, le gouvernement, pour l'instant, il n'avance pas. L'hiver 2008 était un hiver très très froid en Afghanistan. Et les enfants de notre orphelinat, ils ont été envoyés dans des familles, on ne sait pas où, des familles lointaines quelque part, qui eux n'ont pas l'argent non plus pour nourrir un enfant de plus, parce qu'il faisait trop froid et ils ne pouvaient pas chauffer cet orphelinat. Donc, même qu'il y a toutes ces organisations internationales qui sont là et qui dépensent beaucoup d'argent, qui sont d'ailleurs parfois mal vues parce qu'ils dépensent d'abord pour eux, les grandes voitures 4x4 avec des vitres blindées, des kalachnikovs, des maisons assez jolies, des servantes et servantes de qui font la cuisine. Nous, c'est petit, à modeste échelle, mais c'est direct et c'est concret. Et c'est pour ça d'ailleurs, mon grand cercle d'amis, de nos amis, mon mari et moi, nous font confiance que nos projets, ils sont concrets et ils se réalisent et ils aident vraiment les enfants.
Alors j'espère qu'on vous entend. Vox Infantis, on trouve les références sur Internet. Vous allez faire des choses très simples parce que j'aime ce côté artisanal et je suis touché aussi par votre démarche. Il dégarde Mélina. C'est que vous allez faire des confitures avec des copines, vous allez les vendre à la rue de Bourg à Lausanne, je sais pas, au mois de mai, vous allez nous dire quand. C'est des choses aussi simples que ça qui peuvent apporter les 2 francs pour la photo passeport de la petite fille.
Absolument. C'est par des toutes petites choses que nous collectons l'argent. C'est vraiment des petits dons. Alors nous faisons 2 fois par année un stand en ville de Lausanne. Et en fait, j'ai eu cette idée parce qu'une amie, elle a sa fille qui est prof d'école et les enfants font beaucoup les collectes d'argent avec les gâteaux et les pâtisseries que les mamans ont fait. Hein. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'avant, on vendait des fleurs ou l'artisanat tunisien, que ça ne marchait pas très fort. Et les fleurs, on devait les acheter. Alors que les confitures, mes amis et moi, nous les faisons nous-mêmes. Et nous les décorons. Et les biscuits, nous les faisons aussi nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de prix d'achat. Et nous les vendons à 10 francs. Et plein de gens peuvent acheter une pot de confiture pour une bonne œuvre. Et nous faisons 2000 francs, quelque chose comme ça, par stand. Mais c'est toute une organisation. Il faut mobiliser les gens pour monter le stand, pour porter les choses, pour décorer les pots. Ça, nous allons faire samedi prochain. Et puis le samedi, avant la fête des mères, le 8 mai, nous faisons le stand. Et puis encore une fois, on fera pour... cette fois, on a décidé de faire pour Halloween, en espérant de trouver des enfants qui vendraient nos confitures à la courge. Et puis, une fois avant Noël, le 6 décembre, enfin au début décembre, un autre stand, genre pour la fête de Noël. Mais toujours confitures et biscuits et un petit peu des pashminas que mes 2 partenaires m'apportent d'Afghanistan.
Il y a donc toujours l'espoir de modifier le monde par son action personnelle. C'est ce que vous croyez visiblement et personnellement?
Ah oui, je le crois, oui. Chacun met son petit effort, sa petite goutte, chacun selon ses possibilités. Toutes mes amies, j'ai 20aine d'amis qui m'aident vraiment concrètement avec ses confitures, le stand et tout ça. Et puis d'autres qui nous aident avec la cotisation ou avec des dons.
Et s'il y avait un milliardaire qui vous dépose, je sais pas, dans la corbeille, quelques 100 000 balles ou quelque chose comme ça, le deuxième bâtiment, s'il nous écoute, je l'embrasse déjà entre les 2 oreilles, s'il nous écoute, il vous aide et vous construisez ce deuxième bâtiment à Kunduz pour des orphelins?
Ah oui, bien sûr, on le construirait tout de suite. Et aussi les autres petits endroits qui manquent, le dépôt ou bien les toilettes, je crois que ce n'est pas encore très bien non plus. Mais même au départ, on cherche déjà 55 000 francs pour payer la première maison. Parce que maintenant, elle existe, mais nous devons encore payer une bonne partie. Donc, il faut travailler beaucoup. Et si je trouvais un riche donateur, évidemment, je serais ravie. Mais j'ai fait des essais, des tentatives et je n'ai pas encore trouvé.
Nous le trouverons grâce à l'émission, je l'espère. Et alors j'irai en Afghanistan à mes propres frais avec vous et je vous offrirai le voyage pour fêter ça. C'est pour laisser une trace sur notre terre. Vous approchez de la 70aine, il dégarde, Medina et Mam. Y a-t-il la volonté de laisser une trace de son passage sur la terre ou tout simplement, lorsqu'on est vivant, de se sentir utile? Parce que vous avez élevé vos enfants et les enfants de Fateh et Mam. Mais malgré tout, on peut faire plus et c'est dans ce souci-là de laisser une trace que vous faites tout ça.
Alors, ce n'est pas tellement pour laisser une trace, mais pour mettre mes connaissances au bénéfice des démunis, et notamment des enfants. Donc, j'aimerais avoir fait quelque chose d'utile de ma vie, à part, c'est vrai, mes enfants, mes petits-enfants que j'aime tous beaucoup, mais mes petits-enfants sont déjà grands. Donc, j'aime penser que je suis utile quelque part. Mais que ça perdure après ma mort, ça n'a aucune importance.
Mais ça doit.
Ah oui. Bon, si ça peut perdurer, mais pour ça, il faut trouver plus tard un successeur. Mais pour l'instant, j'ai assez de force. Je me vois très bien, même à 80 ans, d'aller encore en Afghanistan. Bon, si je meurs avant, tant pis.
Non, mais c'est extraordinaire. Je dis, ça doit perdurer au-delà de votre mort. Puis vous dites, ah oui, comme si vous y aviez vraiment pas du tout pensé.
Non, j'y pense pas maintenant. Je me sens en pleine forme et dynamique et active et j'ai l'impression que je peux encore faire beaucoup de choses.
C'est quoi le bonheur, Hildegarde ? Vous qui avez vécu peut-être dans le début de la vie, à 4 ans, 8 ans, la renaissance de l'Allemagne dans les ruines et dans la douleur et dans les chagrins. C'est quoi le bonheur aujourd'hui ? Avec un homme qui est un écrivain mais qui est malade, le bonheur, ça se palpe tous les jours, ça existe tous les jours, avec un projet ou sans projet ?
Avec le projet, mais aussi la vie ou l'accompagnement de mon mari, enfin le soutien de mon mari, que je le soutiens, il me soutient. Et mon mari qui écrit, je l'aide autant que je peux parce qu'il écrit son troisième livre. Il avance doucement parce qu'il est malade, mais nous avons des petits bonheurs d'aller à Ouchy sur une terrasse. Et nous nous engageons toujours pour les enfants.
Excusez-moi, je vais vous poser une question un peu brutale. Est-ce une préoccupation de dame bourgeoise, plutôt que de faire du tricot et d'aller faire à un cercle de lecture ou je ne sais pas quoi, évangéliste, des choses formidables entre dames, c'est pas plus utile de faire autre chose et c'est ce pourquoi vous vous êtes engagée, parce que vous êtes une dame bourgeoise qui a du temps.
Oui, je suis une dame bourgeoise qui a du temps, mais justement, je n'ai aucune envie d'aller seulement dans les cafés ou dans les magasins regarder les habits. J'ai envie d'être active encore et de faire... pour aider ces enfants ou que j'ai choisi ou que nous avons choisi d'aider, donc d'être actif.
Je n'ai évidemment pas eu l'intention de vexer qui que ce soit et d'insulter qui que ce soit, mais il y a plusieurs manières d'occuper son temps. Et là, vous pensez avoir trouvé la meilleure manière d'exister sur Terre aujourd'hui, dans cette partie, ce chapitre de votre existence ?
Oui, je trouve que c'est une très belle partie. Bon, j'ai aussi aimé ma carrière, j'ai aussi aimé les enfants, mais quand on est à la retraite, c'est justement le moment où on a le temps, où on a enfin le temps. Et ce temps, je veux l'utiliser pour être utile, pour faire quelque chose d'utile et de bien.
Et de prouver aussi qu'on aime les autres.
Ah oui, c'est vrai. Parce que tout passe par les autres. Et c'est ça qui donne bonheur, de voir les enfants ou de parler avec les gens de mon projet, de les stimuler, de les motiver, de faire avec moi.
Merci Hildegarde de nous avoir offert cette soirée de dimanche soir. On approche de minuit maintenant, on va écouter Norah Jones, It's Gonna Be. Et puis, je vous souhaite le plus grand, la plus grande des réussites et le plus grand succès possible avec Vox Infantis. Je rappelle que ce mot existe, qu'on le trouve sur Internet et puis qu'on peut vous aider si on en a envie. On peut faire des confitures, en acheter, en vendre et surtout faire davantage encore si on en a envie. Merci Hildegarde de nous avoir accordé cette soirée.
Merci beaucoup.
On écoute Norah Jones.
There's a fine line between a skill and a decent.
Ici à Lausanne, à l'ombre de Saint-François, il va sonner les 12 coups de minuit près de cette église magnifique dans la ville de Lausanne. On se quitte ici même, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre moment partagé avec quelqu'un qui est de nouveau quelqu'un qui s'investit, qui fait des choses dans la vie. Et j'en suis ravi pour vous qui nous écoutez et pour moi qui les rencontre. À très bientôt. Tout à l'heure, au-delà de minuit, c'est Jean-Charles Simon et Patrick Lapp pour À quoi qu'on sert le samedi. Bye bye, bonne nuit. Il est minuit. Ciao.